VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle de novembre 2016, ici aux États-Unis. Comme les années passées, les campagnes électorales des deux grandes formations politiques américaines, le Parti démocrate et son rival républicain, éclipsent celles des autres candidats qui briguent la Maison-Blanche. À preuve, seule la candidate démocrate Hillary Clinton et son adversaire républicain Donald Trump sont invités au débat présidentiel prévu cette année. Mais les autres aspirants à la Maison-Blanche ne jettent pas l'éponge. Timothée Donangmaye.
C'est le cas de Jill Stein, la candidate du Parti des Verts. Cette dernière s'est dit certaine de remporter la présidentielle de novembre si seulement elle bénéficiait d'une plus grande visibilité. Lors d'une conférence de presse mardi, ici à Washington, elle a plaidé pour son inclusion dans le débat entre les candidats à la Maison-Blanche. Toutefois, selon les critères de la Commission des débats présidentiels, il faut bénéficier du soutien d'au moins 15% des électeurs pour prendre part aux trois débats prévus pour la présidentielle de novembre. Pour l'heure, Jill Stein ne recueille qu'un taux d'intention de vote à un chiffre, moins que le candidat du Parti libertarien Gary Johnson, qui lui-même a peu de chances d'affronter Hillary Clinton et Donald Trump dans un débat cette année.
Campagne présidentielle au Gabon maintenant. Nouvelle polémique dans les derniers jours de campagne électorale dans le pays. Le principal candidat d'opposition à la présidentielle, Jean Ping, a proposé un débat télévisé avec le président sortant Ali Bongo, lequel a refusé. Pour ce débat contradictoire, une pratique électorale encore rare en Afrique, l'ex-président de la Commission d'Union africaine souhaitait la participation de journalistes choisis par les candidats et représentant la diversité de la presse et des médias. La réponse d'Alain-Claude Bilibi Inze, ministre de la Communication et porte-parole du président candidat, la demande d'un débat contradictoire n'est pas prévue par les lois de la République. Fin de citation. Pour sa part, le président Ali Bongo se dit prêt à participer au débat organisé par le Conseil national de la communication prévu ce soir avec des journalistes sur les antennes de radio-télévision du Gabon. Mais Jean Ping n'y viendra pas. En Centrafrique, le Parlement demande des explications sur le retour inattendu de l'ancien ministre délégué à la Défense nationale, Jean-Francis Bozizé, dans le pays et aussi sur la fuite de certains leaders des groupes armés du PK5 le 12 août dernier. Le bureau du Parlement a entendu aujourd'hui 5 membres du gouvernement, notamment les ministres de la Défense nationale, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères et de la Justice. Aurélien Simplice Zingas, premier vice-président de l'Assemblée nationale, explique les raisons de cette interpellation.
Nous avons réagi conformément aux dispositions du règlement intérieur régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous avons jugé opportun par rapport au sujet d'actualité pour faire venir les membres du gouvernement afin qu'ils nous fournissent des informations pouvant nous permettre aussi, en tant que les élus de la nation, de mettre cela à la disposition de nos électeurs. Ces questions-là concernent exclusivement l'arrivée inattendue à Bangui de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Francis qui aujourd'hui fait couler tant d'encre et également les départs à l'intérieur du pays de l'ancien ministre Abdoulaye Hissène et ses partisans. Voilà, c'est sur ces questions que le bureau de l'Assemblée nationale élargie aux commissions. Nous avons eu à échanger avec les membres du gouvernement.
Aurélien Simplice Zingas, premier vice-président de l'Assemblée nationale de Centrafrique. Cour pénale internationale de La Haye, suite du procès de la destruction des mausolées dans le nord malien, ce mercredi, le tribunal a annoncé son intention de prononcer le 27 septembre son jugement et la peine à l'encontre du djihadiste malien Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, jugé par la CPI pour avoir détruit des mausolées à Tombouctou. L'accusation officiellement requis une peine allant de 9 à 11 ans de prison à l'encontre du djihadiste Bagassi Koura.
Selon Gilles Duterte, représentant de la procureure, cette peine reflète un équilibre juste et appréciable entre l'effet dissuasif qu'elle doit avoir et l'attitude de l'accusé. À l'ouverture du procès lundi, accusation et défense avaient annoncé qu'Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi s'engageait à ne pas faire appel si la condamnation est équivalente à la peine requise. Cet accord ne lie pas les juges qui peuvent décider d'une peine allant jusqu'à 30 ans de détention. L'accusé avait plaidé coupable lundi. lundi de la destruction en juin et juillet 2012 de neuf des mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahya, monument classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Selon l'accusation, Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi était le chef d'orchestre d'attaque visant à mettre fin aux prières et aux rites menés en ces lieux, contraire à la charia ou la loi islamique. La cour prononcera son jugement le 27 septembre.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Conflit en Libye, les États-Unis ont utilisé des hélicoptères d'attaque contre le groupe État islamique à Sirte. L'ancien bastion des djihadistes en Libye est visé depuis mi-mai par une offensive des forces gouvernementales libyennes. On retrouve Bagassi Koura.
Selon l'AFP, des avions américains prêtent assistance depuis début août aux troupes loyales au gouvernement d'Union nationale pour reprendre le contrôle de cette ville côtière située à 450 km à l'est de Tripoli. Ils ont mené des dizaines de frappes sur des positions et du matériel de l'EI. Selon le capitaine de corvette Anthony Falvo, porte-parole du commandement des forces américaines en Afrique, des hélicoptères Super Cobra des marines ont rejoint les opérations ces derniers jours. Ces hélicoptères sont stationnés sur l'USS Wasp, un navire d'assaut amphibie qui croise en Méditerranée. Des avions à décollage vertical partent également de ce bâtiment pour mener des frappes sur Sirte. Les États-Unis avaient effectué 77 frappes aériennes sur la ville, selon un bilan arrêté à lundi.
Conflit en Irak, les forces antiterroristes irakiennes continuent leurs attaques pour reprendre aux djihadistes de l'État islamique la ville de Garaya, une position clé en vue de la bataille de Mossoul, le bastion du groupe État islamique dans le nord du pays. L'opération à Garaya a commencé hier et l'ONU a averti qu'une offensive sur Mossoul, la seconde ville de l'Irak, pourrait provoquer le pire déplacement de population depuis des années. Les précisions de John Lyndon.
Selon le maire de Garaya, Saleh al-Djoubouri, quelques 15 000 civils seraient pris au piège de l'État islamique dans la ville et ses alentours. M. Djoubouri a indiqué que les forces du contre-terrorisme progressaient rapidement dans Gayara et avaient déjà repris les principaux sites de la ville quelques heures seulement après le lancement de l'opération. Mardi, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a averti qu'une telle offensive pourrait provoquer le déplacement d'un million de personnes supplémentaires. Près de 3,4 millions de personnes ont été déplacées dans le pays depuis le début de 2014.
Le vice-président américain Joe Biden poursuit sa tournée en Turquie où il cherche à réparer les dommages dans les relations américano-turques dues au coup d'État manqué dans le pays et aussi parler de la Syrie. Ce dossier a également été couvert par John Lyndon.
Joe Biden était attendu avec impatience par Ankara et est le plus haut responsable occidental à se rendre en Turquie depuis le coup d'État manqué du 15 juillet, dont la Turquie a accusé l'ex-imam Fethullah Gülen, en exil ici aux États-Unis depuis 1999, d'en être le cerveau. Ankara réclame à corps et à cri depuis le push manqué l'extradition du prédicateur à Washington, qui a demandé un retour des preuves plutôt que des allégations et ne semble pas démesurément pressé de s'atteler à l'examen de ce dossier explosif. L'écrasante majorité des Turcs semble convaincue de la responsabilité de Gülen dans le putsch raté. L'ex-imam a, lui, formellement nié toute implication. La Syrie devrait également constituer un important volet des discussions de Joe Biden en Turquie. Sa visite intervient au moment où les forces armées turques ont lancé une opération en Syrie en coordination avec la coalition anti-djihadiste et donc avec le soutien américain.
En Italie, puissant séisme qui a fait 73 morts. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le bilan de ce séisme de magnitude 6,2 a partiellement détruit au moins 3 villages dans une région montagneuse au nord-est de Rome. Immacolata Portiglione, chef du département urgence de la protection civile italienne, a averti que le bilan pourrait être plus lourd. Les premières images parvenues des villages les plus touchés révèlent l'ampleur des destructions. Des immeubles ne sont plus que des ruines. Des secouristes fouillent les décombres à main nue dans l'espoir de retrouver des survivants. Des habitants hagards se regroupent dans les rues ou les places de leur village, partiellement détruits en quelques secondes. L'une des communes les plus touchées, Pescara del Tronto, petit village de quelques centaines d'habitants, semble rayée de la carte. Selon l'agence AGI, des centaines de disparus pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à point fermé sont toujours recherchés.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.